virtuellement, et donc ils vont pouvoir payer des taux plus importants plus tard. Donc cette espèce de système, alors qu'en réalité, ils restaient avec leur travail précaire, avec leur salaire réduit. Donc,
ils étaient virtuellement riches.
Seulement. Ils étaient virtuellement riches, c'est-à-dire psychologiquement riches, bien sûr, dans un système où la bulle financière s'est développée. Mais les banques de crédit, les banques qui ont effectué ces crédits, savaient, ces crédits, on les a appelés des subprimes, c'est ça, les subprimes, savaient que ces crédits étaient extrêmement dangereux. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est essayer de refiler une partie de ces crédits à d'autres banques en les titrisant, hein, c'est-à-dire en faisant des titres de crédit. Et ces titres ont été achetés par des banques à l'échelle internationale. Et c'est là où on revient à cette idée qu'il y a des instruments financiers aujourd'hui avec lesquels on travaille dans les marchés, parce qu'on voit qu'ils ont de la valeur, ils sont demandés, mais on ne sait pas très bien à quoi ils correspondent. Et donc le système général, ce système financier qui fonctionne donc 24 heures sur 24, etc., sur les autoroutes de la communication, ben, ce système a été complètement gagné par une épidémie, par un virus, le virus des subprimes. Et lorsque la Réserve fédérale, pour d'autres raisons, a commencé à augmenter ses taux, pour combattre l'inflation en particulier.
À partir de 2005, vous dites.
À partir de 2005, il est évident que beaucoup de foyers se sont retrouvés dans l'impossibilité de payer, puisque leur taux de crédit était indexé sur le taux de la Réserve fédérale. Et à ce moment-là, on a appris qu'il y a des millions de foyers, environ 3 millions de foyers, au moins aux États-Unis, qui sont aujourd'hui insolvables, qui ne peuvent pas payer ces 3 millions de maisons, en quelque sorte, ce qui s'élève à une somme qui a été calculée à environ 200 milliards, donc de pertes. Ces 200 milliards ont été dispersés dans énormément de banques. Donc, on a vu que le système aujourd'hui, d'une manière foudroyante, a été atteint par cette épidémie. Alors, c'est donc systémique, si vous voulez. Le problème, c'est que désormais, ça risque de se transférer à l'économie réelle. C'est ça la grande peur. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de récession aux États-Unis, puisque c'est la question, la croissance sera diminuée. Quel est l'espoir maintenant d'un certain nombre d'économistes ? C'est que les économies asiatiques prennent la relève de l'économie américaine. C'est ça maintenant. Dans une certaine mesure, si vous voulez, c'est la croissance interne de la Chine qui peut sauver la machine économique internationale. Donc les conclusions que l'on peut tirer de cette situation sont les suivantes. C'est la première crise, à mon avis, de, disons, ce qu'on appelle la globalisation financière, hein, c'est-à-dire c'est la première crise du néolibéralisme en acte, en quelque sorte, c'est-à-dire tel qu'il s'est développé il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est la première crise. En tout cas, ça donne des arguments à tous ceux, et ce journal l'a fait assez souvent, qui critiquaient ce système et qui énonçaient un certain nombre, disons, de périls et de dangers qui existaient. Deuxièmement, c'est aussi, si vous voulez, l'entrée en scène dans le domaine financier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, de la Chine et d'autres puissances asiatiques. De ce point de vue-là, si vous voulez, je pense que c'est aussi, ça peut être un signe complémentaire du déclin de l'Occident ou de la transition dans laquelle nous sommes, hein, où on va voir de plus en plus la Chine, d'autres puissances asiatiques en particulier, devenir un élément très important du système international. Et troisième idée, c'est que une fois de plus, les citoyens aujourd'hui sont les victimes d'un système financier qui est devenu fou, qui n'est plus contrôlé par les propres artisans, les propres architectes de ce système. Et donc, raison de plus pour essayer de le corriger radicalement.
Non, c'est à Bernanke qu'il doit faire quelque chose. Il faut qu'il se bouge le cul. Ça donne une idée du bordel dans lequel on est. Mais Bernanke, il fait son universitaire à la noix. Mais putain, mais qu'il écoute deux secondes. Il n'a aucune idée du bordel dans lequel on est. Aucune. Aucune merde. Moi, j'ai parlé au patron de quasiment toutes ces boîtes et je peux te dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se prépare. Aucune. Les gens avec lesquels je bosse, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Et ils vont perdre leur boulot et ils vont perdre leur boîte. Il est fou, quoi, merde. Ils sont nuls, nuls à chier. Et la Fed qui se bouge pas le cul, putain.
Ok, du calme. Je sais que c'est un sujet sensible qui vous tient à cœur, mais beaucoup de gens disent qu'il y a un certain type de prêt, d'accord, qu'on ne peut plus faire.
Personne ne peut obtenir un prêt aujourd'hui si